L'image qui va servir de socle à notre émission d'aujourd'hui, l'image sur laquelle nous nous arrêterons, l'image dont nous explorerons la genèse et les prolongements, est une image qui risque bien de rester dans les annales de la République. Cette image, c'est celle-ci.
Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. Pour moi, il n'est pas concevable qu'un ministre puisse continuer d'exercer sa mission alors qu'existe à son encontre un soupçon donnant lieu à une procédure judiciaire au risque de porter atteinte à tout le gouvernement. Comme citoyen, je souhaite maintenant pouvoir m'expliquer rapidement devant la justice, aussi bien sur la réalité de mon travail ou sur le montant de mes honoraires, que sur les irrégularités de forme qui ont pu être commises.
Armelle Toraval, vous êtes enquêtrice au quotidien Libération. Je crois que de toute la presse...
Je préférerais journaliste, si vous vous en dites.
C'est une catégorie de journaliste.
Oui.
C'est pas tout à fait incompatible.
C'est pas tout à fait incompatible, mais je pense que toute forme de journaliste est
d'accord.
Une forme d'enquête.
Journaliste à Libération, c'est vous, je crois, qui de toute la presse française avez enquêté le plus complètement et depuis le plus longtemps sur les différentes affaires de la MNEF qui ont conduit à la démission de Dominique Strauss-Kahn. J'ai envie de vous demander simplement, quand vous avez vu ces images, quand vous avez appris qu'il démissionnait, quelle a été votre toute première réaction, avant toute réflexion, toute première réaction?
Ma toute première réaction est probablement de me dire que c'est une décision qui n'est pas fréquente et qu'on peut constater ailleurs, et notamment à droite, des formes de résistance très notables, malgré des mises en cause qui sont relativement sévères.
Mais ça a tout de suite été donc une espèce d'analyse, c'est-à-dire votre première réaction n'a pas été de vous dire finalement c'est à cause de moi ou c'est grâce à moi si ça se passe aujourd'hui.
C'est à cause de moi ou c'est grâce à moi, je pense qu'effectivement j'ai été la première à mettre en cause publiquement Dominique Strauss-Kahn, mais le processus qui conduit à sa démission est un processus qui n'est pas journalistique, qui est un processus d'instruction judiciaire, c'est-à-dire que...
Dont on verra qu'il est aussi peut-être un petit peu journalistique.
Il est journalistique dans son suivi, mais il y a quand même deux temps totalement différents dans cette affaire. Il y a un temps qui est le temps de la presse. Il y a un temps qui est très différent, qui est celui de l'instruction judiciaire. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes procédures. Donc, ce sont pour moi deux temps très séparés.
On y reviendra en détail et on essaiera précisément de bien distinguer les deux temps et les deux processus. Paul Morera, vous êtes journaliste à Canal+. Vous avez créé il y a quelques mois la cellule d'investigation de Canal+. Ces dernières années, vous étiez enquêteur au vrai journal. On peut dire enquêteur, vous?
Oui, bah, Serge, au moment des faits, j'étais rédacteur en chef de l'émission.
Mais
j'ai participé. Enfin, j'ai pas de pouvoir de police judiciaire, donc je suis journaliste avant tout.
Journaliste au vrai journal.
Enquêteur, c'est vrai que c'est un mot commun avec une profession qui n'est pas la même que la nôtre.
Séparons bien les choses.
Ouais.
Au vrai journal de Carl Zéro, même question. Quand vous voyez ces images, quelle est votre toute première réaction?
Enfin, moi, je trouve que la démocratie fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses avancent comme ça, où effectivement on établit que. Au moins pour se couvrir, parce que c'est vrai qu'il n'est pas établi, qu'il n'est pas travaillé pour cette fameuse session, mais de toute évidence, un faux a été signé.
Il faudra être précis, cette fameuse session, ça veut dire le processus de rapprochement entre les filiales de la MNEF et la CGE,
voilà.
Mais en gros, la démocratie fonctionne.
Absolument.
Alphine Kielkraut, vous avez appris la nouvelle par la télévision ou par un autre canal?
Je l'ai appris...
Je précise que vous êtes philosophe.
Non, je l'ai appris par les journaux, parce que je n'étais pas à Paris le jour de sa démission. Donc je découvre ces images avec vous. Et je suis touché, effectivement, par l'élégance, la sobriété, la noblesse de la déclaration. En même temps, je ne suis pas obligé de prendre ce que dit Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, pour argent comptant. Mais... je me refuse à croire que lorsqu'un ministre démissionne, cela prouve que la démocratie fonctionne. Ça, je ne vois pas pourquoi la démocratie se prouverait, si vous voulez, dans une sorte de combat entre les politiques et les juges. La démocratie fonctionne quand les politiques font de la politique et de la bonne politique. Et je suis triste devant ce qui arrive, précisément à cause du contexte général, qui est, que je pourrais définir ainsi, le remplacement des affaires communes par les affaires judiciaires. La politique, c'est les affaires communes. Maintenant, le théâtre de la politique, c'est le prétoire. Alors, et moi, je m'interroge. Est-ce que ça veut dire que cette criminalisation constante de l'affaire Juppé à l'affaire Strauss-Kahn, en passant par l'affaire Tibéri, est-ce qu'elle prouve qu'il y a abondance de délinquants dans la politique ou non ? Est-ce qu'elle ne témoigne pas aussi d'une certaine hubris, d'une certaine démesure judiciaire, journalistique, l'un ou l'autre, l'un et l'autre ensemble ? Je crois que la hubris, ça veut dire démesure.
Démesure, merci de traduire. Jacques Julliard, vous êtes chroniqueur au Nouvel Observateur, vous êtes historien de formation. Est-ce que pour vous, ça, c'est une image qui dit que la démocratie fonctionne ?
Je trouve qu'elle fonctionne mieux.
Après qu'avant ?
Oui. On a beaucoup parlé de jurisprudence Balladur. Je voudrais rappeler...
Alors, la jurisprudence Balladur, c'est l'espèce d'usage qui s'était instauré, selon lequel un ministre...
Qui est mis en examen dans le cas de ministre Strauss-Kahn qui est menacé de l'être, démissionne. En fait, c'est une jurisprudence beaucoup plus ancienne. Sous la Troisième République, c'était la règle. C'est-à-dire qu'un homme politique qui était, on disait, inculpé à l'époque, ou enfin, mis en cause par la justice, poursuivi, et démissionné en disant « je ne veux pas que mes propres affaires éclaboussent le gouvernement, et je reprends ma liberté pour faire éclater mon innocence ». C'est comme ça qu'on s'exprimait sous la Troisième. Or, en réalité, moi je dirais qu'il y a eu une jurisprudence, faut-il l'appeler Mitterrand, qui consistait à l'inverse, à dire... le pouvoir, quand on y est, on y reste. On ne fera jamais à l'ennemi, à l'adversaire, le cadeau de quitter le pouvoir, de démissionner. Donc ça a été, c'est là qu'il y a eu une nouvelle jurisprudence. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est au fond s'affronter deux jurisprudences, si on peut dire, avec le rappel que je viens de faire, mais la jurisprudence Balladur, qu'au fond vient d'appliquer, et il a eu raison, Dominique Strauss-Kahn, et la jurisprudence Mitterrand qu'a appliquée Roland Dumas, ça ne surprendra personne, c'est un ami de Mitterrand, mais aussi Jean Tibéri, maire de Paris.
Qui continue, lui, d'appliquer. Voilà. Alors, on va revenir tout au long de cette émission sur les rôles respectifs qu'ont joué les médias et la justice dans ce qui a conduit à la démission de Dominique Strauss-Kahn. Mais d'abord, vous parliez de la jurisprudence Balladur. Pour bien cerner la nature particulière de l'événement qui vient de se produire là, j'ai envie de vous faire réentendre à tous la déclaration de démission d'un des ministres d'Edouard Balladur qui avait été mis en cause dans une affaire et qui avait dû démissionner et qui s'en était expliqué, lui, sur le perron de l'hôtel Matignon. C'était Gérard Longuet, c'était en 1994, il était ministre de l'Industrie. Et vous allez voir que la tonalité n'est pas tout à fait la même.
À cet instant, j'éprouve un sentiment de libération. Depuis plusieurs mois, le Parti Républicain et moi-même sommes attaqués par des violations répétées du secret de l'instruction. Il y a quelques jours, c'est sur mon patrimoine personnel que l'attaque a porté. J'ai cru pouvoir bénéficier des quelques semaines pour établir ma bonne foi. En réalité, j'ai été condamné avant même que d'avoir été entendu.
Alors, déclaration beaucoup plus amère, hein. Dénonciation des violations du secret de l'instruction, j'ai été condamné, donc dénonciation implicite des journalistes et des juges, même s'il ne le dit pas comme ça. Est-ce que le fait que Strauss-Kahn soit, entre guillemets, beaucoup plus soft, traduit finalement une banalisation de ce type de situation et une acceptation par les politiques du fait qu'ils sont maintenant à la merci du judiciaire?
C'est sans doute une acceptation du rapport de force. Je note que Strauss-Kahn n'est pas encore mis en examen, donc ça va au-delà de la jurisprudence Balladur.
Lui non plus, à l'époque, ne l'était pas.
Oui, hein. Cela étant, je ne voudrais pas quand même ici défendre la jurisprudence Mitterrand. Là, entre Carive et Silla, je n'ai pas à choisir. Je constate que la jurisprudence Balladur a fait des dégâts. Oui. C'est-à-dire que Longuet, on peut effectivement juger qu'il a été amer, il a bénéficié d'un non-lieu. De même pour Roussin.
Il a été relaxé.
Ils ont été relaxés. C'est l'un et l'autre, et c'est très important, parce que Je veux dire, ils passent des mois et des années difficiles, ils subissent quand même un certain acharnement, et une fois qu'ils ont obtenu la relaxe ou le non-lieu, de toute façon, ce qui est cassé et est irréparable. Il faut aussi songer à cela. Je n'ai rien
contre... Pour être parfaitement complet, Gérard Longuet a été relaxé pour les motifs qui lui avaient valu de démissionner, mais les poursuites ont continué ensuite pendant un certain temps à propos de d'autres affaires.
Oui, mais je ne crois pas qu'il ait été condamné depuis. Non, je voudrais dire une seule chose, si vous voulez, qu'on surveille de près les politiques, que l'on étende le champ de leurs responsabilités quand ils sont maires, quand ils sont députés, quand ils sont ministres. Très bien. Mais que ceux-là même qui poursuivent ces enquêtes, eux, ne soient totalement et complètement et toujours irresponsables, je considère que c'est très grave.
Là, vous parlez des juges.
En tout cas, des juges, oui. C'est-à-dire qu'il ne leur arrive rien. Ils instruisent à charge et jamais à décharge. Et une fois que leur instruction s'avère mauvaise, ils obtiennent une promotion. Il ne leur arrive rien. Ils ne risquent jamais rien.
Si je peux me permettre sur ce point-là, et pour avoir suivi l'affaire Longuet, ce que vous êtes en train de dire est une contre-vérité absolue. Et s'il y avait matière à discuter des conditions de l'instruction qui a été effectuée s'agissant de l'affaire Longuet, la vraie question serait pourquoi cette instruction s'est-elle abstenue de s'intéresser à un certain nombre de points s'agissant de l'affaire de la Villelin. Monsieur Longuet a obtenu le relax, parfait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette affaire, dans un contexte par ailleurs où il y avait une intervention effective du ministère de la Justice, dans un certain nombre d'aspects, cette affaire ne s'est pas déroulée dans des conditions D'accord. qu'on peut juger conformes à la démocratie.
D'accord, ça c'est votre témoignage, mais on va peut-être considérer ici qu'une décision de justice s'impose à tous.
Tout à fait.
Hein, et pas revenir sur le...
Non, mais de là à demander...
Un mot sur l'image que nous avons vue, pour la comparer à celle de Dominique Strauss-Kahn. Moi, je préfère le ton de Strauss-Kahn. Pourquoi ? Parce que Longuet suggère qu'il y a un complot ou une persécution contre les politiques. C'est cela qui est derrière son discours. Et presque tous les politiques aujourd'hui, lorsqu'ils sont mis en cause par la justice, disent naturellement, c'est une manœuvre politique contre moi.
Sauf Strauss-Kahn, qui est le premier...
Oui, alors justement, moi je ne...
Peut-être le pense-t-il, hein, mais en tout cas, il ne le dit pas.
Oui, en tout cas, il ne le dit pas. Il joue d'une manière assez élégante, dire « je suis innocent, naturellement ». C'est son droit de...
Mais alors ça, est-ce que vous pensez comme Finkielkraut que c'est une acceptation résignée du rapport de force ou c'est qu'on est peut-être passé dans une autre époque ?
Moi je crois que les hommes politiques sont en train de se résigner, peut-être, à être traités comme des citoyens comme les autres. Ça n'est pas général. Ce que je viens de dire, par exemple, de M. Tibéri montre bien que ça n'est pas le cas. Simplement, je crois que... Je suis sensible à certaines des inquiétudes qu'exprime Alain Finkielkraut. Simplement, je crois que le danger d'une justice qui deviendrait vraiment persécutrice est moins grand aujourd'hui que l'espèce de clivage qui s'était constitué depuis des années, de fossé entre la population et les élites dirigeantes sur le thème « cela ne relève pas ». Des mêmes règles judiciaires que nous.
L'amnistie, l'impunité...
Voilà. Et à tort ou à raison, à mon avis, à raison, les gens pensaient que les élites, hein, je dis bien les élites, parce qu'il n'y a pas que les politiques, il y avait aussi les chefs d'entreprise, et il y avait tous les gens qui avaient une situation. Eh bien, ceux-là ont bénéficié pendant des années, des décennies, d'un traitement de faveur. Et ça, le sentiment que la loi n'est pas la même pour toutes, est quelque chose de destructeur de la démocratie. C'est même pour ça qu'on a fait une révolution, enfin que je sache.
Paul Morera. Enfin, moi, je crois que les hommes politiques, ils doivent être encore plus respectueux de la loi que le citoyen lambda. Et puis, quand vous dites que les juges n'ont pas à payer leur choix, c'est pas vrai. Pensez à un juge comme le juge Murciano. Il met en examen Godin, le président du Conseil général. Il se fait dessaisir.
Président du Conseil général. Des Bouches-du-Rhône.
De PACA, même, du Conseil
régional. De Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il s'est fait dessaisir. Alors, ensuite, il a des problèmes monumentaux. Il met Mouillon en tôle. Aujourd'hui, il a une vraie cabale contre lui. Enfin, les juges ne sont pas des gens qui sont totalement exempts de poursuites.
Je persiste à penser qu'ils n'ont pas à répondre de décisions qu'ils peuvent prendre quand celles-ci se révèlent mauvaises. J'ajoute que aujourd'hui, on nous dit la démocratie progresse parce qu'on fait plier les puissants, avec cette idée que la politique et la puissance, c'est la même chose. Je pense qu'il y a très longtemps, ou en tout cas il y a déjà quelques années, que la politique et la puissance sont divorcées. La puissance, et les hommes politiques ne sont pas les hommes puissants aujourd'hui. Ce sont des hommes contrôlés, surveillés. Je ne sais pas, peut-être que seule la puissance est puissante. Mais imaginez-vous, je vais utiliser encore un mot, j'appellerai ça une langue régionale pour que ça fasse de gauche. Imaginez que votre passion maîtresse soit la libido dominante dit. Hein? Eh ben, est-ce que vous allez faire de la politique aujourd'hui? Non, sûrement pas. Si vous voulez dominer, si vous voulez exercer un pouvoir, vous n'allez pas faire de politique. Vous allez peut-être, je ne sais pas, faire des affaires, devenir directeur de Canal+, devenir Pierre Bourdieu au Collège de France et hautes études. Ça m'étonnerait. Mais enfin, la libido dominante dit et la politique, c'est deux choses complètement différentes. Eva Joly a beaucoup plus de pouvoir que les politiques aujourd'hui. Et je peux donner un autre exemple.
Mais est-ce que l'enjeu de la politique, c'est d'avoir du pouvoir? Non. Ou est-ce que l'enjeu de la politique, c'est justement de pouvoir instaurer un débat sur des choses essentielles, la santé, les impôts, la défense, dans des conditions de crédibilité telles que ce débat politique puisse avoir lieu correctement? C'est-à-dire de telle façon que le citoyen puisse se dire... Le monsieur là qui va me dire que je vais payer un peu plus d'impôts
ou un
demain,
peu moins. En général c'est plutôt un peu moins.
Ou un peu moins d'impôts, ou que ça va, les impôts vont être répartis différemment, ou qui va me demander de payer de la CSG, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il a suffisamment de rigueur pour que je puisse accepter son choix? C'est
d'accord.
ça la question
posée. Je suis d'accord avec vous.
C'est une question fondamentale.
Oui, mais écoutez, il faudrait aussi veiller à ne pas complètement dépolitiser la scène publique avec justement en l'installant simplement dans un prétoire ou sur la scène d'un tribunal. Demain, Robert Rue va être jugé pour le financement du Parti communiste. Tout le monde sait que les partis politiques étaient financés par les marchés publics parce qu'ils ne pouvaient pas l'être par les impôts. Donc on ne va pas nous expliquer encore pendant 20 ans que ces gens-là étaient des corrompus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui retarde la vraie discussion politique. En France, il y a eu l'affaire Juppé, il y a eu l'affaire Tiberi, il y a l'affaire Strauss-Kahn. Où est la discussion politique entre la droite et la gauche?
Qui sont de nature très différente.
Mais qui occupent la scène.
Dans le cas de l'affaire Strauss-Kahn, jusqu'à plus en plein formé, il ne s'agit pas de financement politique. Encore une fois, sous réserve de tout ce que l'enquête révélera.
Oui, bien sûr.
Alors, je voudrais qu'on fasse un peu notre métier, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, nous, maintenant, à la manière dont les médias ont travaillé depuis le début de ces enquêtes sur l'AMNEF. Je crois que le plus simple, c'est ce qui sera le plus révélateur, c'est de repartir, et Valérie Casanova s'y est penchée toute cette semaine, de repartir sur le week-end dernier qui a mené à la démission de Strauss-Kahn et qui a été un week-end de folie aussi médiatique.
Oui, alors le week-end commence en fait vendredi, ce qui est un week-end un peu avancé, vendredi 29 octobre avec un journal Le Parisien qui nous annonce à la une qu'un homme accuse Dominique Strauss-Kahn. Cet homme, c'est bien sûr Philippe Plantagenet, on a ensuite beaucoup entendu son nom. Il est l'ex numéro 2 de l'AMNEF et l'article parle d'une fameuse lettre antidatée. Alors en fait, effectivement, Philippe Plantagenet a été entendu par les juges le 14 octobre 1999 et à cette occasion, il a fait quelques révélations. Il a affirmé que des documents avaient été falsifiés ou antidatés pour justifier du travail de Dominique Strauss-Kahn comme avocat d'affaires au cours d'une opération entre la Compagnie Générale et des eaux et une filiale de l'AMNEF.
Ça, c'est le vendredi et c'est le jour où tout commence, hein, Dominique Strauss-Kahn est en vacances au Vietnam. Le samedi, dans Libération, vous republiez une interview que Strauss-Kahn vous avait accordée plusieurs mois auparavant et dont vous n'aviez jusqu'alors donné que des très courts extraits. Alors, vous lui posiez des questions sur finalement son rôle dans cette mission contestée d'avocat entre la CGE et l'AMNEF. Et il vous expliquait des choses qui effectivement, pouvaient paraître assez sidérantes. Il vous disait, on va la voir là, le rôle d'un conseil, ça passe des petits bouts de papier en cours de réunion. Ça consiste à réfléchir avec le client sur la stratégie qu'on va devoir suivre pour aboutir. Et alors, l'interview que vous republiez se termine par cette phrase étonnante. C'est-à-dire, Strauss-Kahn vous dit, à partir du moment où vous dites 600 000 francs, c'est beaucoup, vous dit-il, vous allez franchir la ligne jaune. Alors, comment il faut la lire, cette phrase? C'est une menace qui vous adressait? C'est quoi?
Oui, clairement, mais dans le cadre d'une... Enfin, c'était une menace. C'était dans le cadre de... J'avais vu Dominique Strauss-Kahn une première fois en juillet 98, quand Libération a révélé l'existence de ce...
A écrit son nom noir sur blanc pour
la... A révélé l'existence de la prestation, du fait qu'il avait, il était intervenu dans cette négociation. Bon. Et peut-être des questions qu'on pouvait avoir autour de son rôle.
Donc, vous l'aviez rencontré avant publication de l'article ou après ?
Avant.
Oui, avant. Donc, il s'en était expliqué. D'accord.
Oui, oui, je l'avais rencontré au ministère.
Il s'en était expliqué à l'époque, sans réticence.
Il s'en était expliqué à l'époque. Il m'avait montré cette lettre de mission. J'étais sorti de ce rendez-vous, je dois dire, assez sceptique, ou en tous les cas, en n'ayant toujours pas bien compris quelle était la définition exacte de son rôle, puisque. Il se présentait comme avocat. Moi, je comprenais qu'il avait eu une intervention qu'on pouvait plus rapprocher d'un rôle de banquier d'affaires du type la Banque Lazare, quand elle intervient dans des deals et qu'elle monte des deals. Bon, voilà. J'ai donné l'information une première fois, pas de façon particulièrement mise en scène d'ailleurs.
Oui. Non, c'est vrai, c'était noyé dans le cœur d'un article, c'était pas annoncé à la une. Il fallait vraiment plonger dans le journal pour savoir que...
Voilà, oui. J'avais aucune raison, enfin je ne l'ai pas rappelé ensuite. Pourquoi je refais un papier en décembre ? Je refais un papier en décembre parce
98,
que moi je sais, en décembre 98, parce que je sais, par ailleurs, j'ai des documents, j'ai un ensemble de pièces de cette négociation, de longue date déjà, et je sais qu'il y a des avocats qui ont rédigé les documents, qui ont participé aux négociations, qui ont fait un certain nombre de prestations.
Il se trouve d'autres avocats que Strauss-Kahn.
Oui, il se trouve que dans le cadre de l'enquête préliminaire, se trouve confirmé un certain nombre d'éléments que j'avais antérieurement au travail de la justice. Et que je le rappelle en lui demandant des précisions. Et je lui dis, mais bon, puisque vous êtes intervenu dans cette négociation, vous connaissez forcément le nom d'un avocat ou le nom des avocats. Vous savez quel service juridique a fait quel travail.
Et alors, il vous répond qui quoi était...
Ben, il me répond, service juridique, il ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres avocats? Je lui demande, est-ce qu'il y a un autre avocat du côté de la MNEF qui est intervenu? Il me répond, oui, non, non, non du côté de la MNEF. En fait, il y en a plusieurs. Donc, c'est son client... Puisqu'on est dans le cadre d'un conseil, son client, c'est la MNEF. C'est pas la CGE.
D'accord.
Donc ça pose un certain nombre de problèmes.
La ligne jaune.
Je pense que c'est anecdotique, la ligne jaune. C'est parce que.
C'est pas forcément une menace. Il y a des choses. Ça ne vous regarde plus.
Oui, puis ça veut dire simplement aussi que c'est vrai que, si je peux employer ce mot, les journalistes sont parfois passablement emmerdants. Et donc moi, en l'occurrence, quand j'ai cette conversation d'une heure et demie avec lui, on peut pas dire qu'elle se déroule dans une. Sur un mode totalement affable. C'est-à-dire que je reviens 10 fois sur les mêmes questions pour essayer de comprendre, pour avoir des réponses, etc. Donc, le Dominique Strauss-Kahn commence à être énervé, et puis à la fin, il me dit « ça suffit, quoi ». Voilà. Bon, ça veut dire « ça suffit ».
Le dimanche, Dominique Strauss-Kahn revient du Vietnam, précipitamment, il interrompt son voyage. Et alors là, on va voir que les médias, évidemment, continuent de suivre, les télévisions s'en mêlent, d'une manière, on va le voir, très différente entre France 2 et TF1. France 2, d'abord, colle au basque du ministre pendant toute la journée de son retour, de petits extraits.
Madame, Monsieur, bonjour. Dominique Strauss-Kahn s'est rendu il y a quelques instants à l'hôtel Matignon pour rencontrer le Premier ministre Lionel Jospin. Le ministre de l'économie, qui est maintenant au cœur de l'enquête sur le scandale de la MNEF, est arrivé tôt ce matin à Paris en provenance de Hanoï.
C'était il y a quelques minutes. Dominique Strauss-Kahn arrivait à Matignon pour un rendez-vous dominical qui ne figurait pas sur l'agenda du Premier ministre, tout juste rentré de Guadeloupe. Pour le ministre de l'économie et des finances, la matinée est allée très vite. Roissy, 6h05 ce matin. Dominique Strauss-Kahn et son épouse foulent le sol français après avoir abrégé la partie privée de leur séjour vietnamien. Dès son arrivée, le ministre rencontre son avocat, puis rentre chez lui dans le 16e arrondissement à Paris. Son domicile est cerné par la presse. Il en ressort 2 heures plus tard, mais sans faire de déclaration. En attendant, le ministre passe voir ses collaborateurs à Bercy pendant quelques heures. Depuis une demi-heure, le Premier ministre, son ministre des Finances et ses principaux collaborateurs sont à Matignon. Mais ici, on ne veut surtout pas parler d'une réunion de crise.
Donc, il est à Matignon depuis midi et demi, mais sur TF1, encore à 13h09, Claire Chazal ne semble pas au courant.
Dominique Strauss-Kahn, qui est arrivé ce matin du Vietnam après avoir écourté son voyage. Il devra d'ailleurs rencontrer vraisemblablement Lionel Jospin dans la journée.
Voilà, deux types de traitements très, très différents. On va voir que ça va ces différences entre TF1 et France 2 vont se prolonger. Le lundi, jour de la Toussaint, rebondissement.
Le lundi, jour de la Toussaint, Armel Toraval travaille quand même, puisque en fait, c'est Libération qui reprend la main avec à la une un article qui dit que Strauss-Kahn est en odeur de faux. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Vous révélez, Armel Toraval, les conclusions des expertises scientifiques. Alors, vous évoquez plusieurs points assez précis. D'abord, les fameuses polices de caractère qui portaient sur les lettres présumées antidatées. Ces polices de caractère n'auraient pas existé au moment des faits, premièrement. Ensuite, vous parlez du papier qui aurait été fabriqué et mis en vente après la date indiquée sur les documents. Et enfin, c'est pas tout. Vous évoquez aussi que sur certains documents qui ont été annotés, on avait mis en parler à Dominique Strauss-Kahn et que ces annotations, en fait, auraient été portées par des employés de l'AMNEF beaucoup plus tard.
Alors, même différence de reprise de vos révélations sur la télévision, France 2 y fait une large place en les illustrant.
Pas de jour férié dans le dossier de l'AMNEF. Selon nos confrères de Libération, les documents destinés à prouver que Dominique Strauss-Kahn a effectivement travaillé pour l'AMNEF, eh bien, seraient des faux.
Certains documents censés prouver la réalité du travail de Dominique Strauss-Kahn auraient été rédigés avec une police qui n'existait pas dans le logiciel que possédait l'AMNEF en 94. Ces documents auraient donc été rédigés après coup. De plus, selon les analyses du laboratoire, le papier utilisé aurait lui aussi été fabriqué après 1994.
En revanche, aucune reprise précise de vos informations ce soir-là sur TF1, mais un dialogue assez surréaliste.
Jean-Pierre Berthet, alors qu'en est-il de ces documents?
Ce qu'on peut dire, c'est que ce rapport d'expertise scientifique est une réalité judiciaire. Il est bel et bien au dossier des deux juges d'instruction qui instruisent sur cette affaire de l'AMNEF. Quant à savoir si les documents expertisés sont des faux et qui aurait éventuellement fabriqué ces faux pour justifier a priori la prestation du ministre, là, ce ne sont que des questions posées par l'instruction et des questions qui restent pour le moment sans réponse.
Alors évidemment, la première explication qui vient à l'esprit de cette prudence de TF1, c'est de se dire que TF1 est très embarrassé dans cette affaire par le fait que l'épouse de Dominique Strauss-Kahn soit Anne Sinclair, ancienne journaliste vedette de la chaîne et toujours dirigeante de la chaîne. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Robert Namias, directeur de l'information, je lui ai demandé naïvement si c'était la raison de la réserve de TF1. Il m'a assuré que non, que une consigne particulière de modération n'avait été donnée à TF1 sur l'affaire de l'AMNEF, pas plus que sur aucune autre. Mais en revanche, ce que dit Namias, c'est que selon lui, la prudence est tout à fait délibérée. C'est-à-dire que la télévision n'est pas, selon Namias, un média adapté pour traiter d'affaires complexes, qui, effectivement, dont les détails techniques sont souvent extrêmement difficiles à saisir, que la presse écrite s'y prête très bien. Parce que, on peut s'arrêter sur un article de la presse si on n'a pas bien compris, on peut revenir en arrière, on peut y prendre le temps qu'on veut. Tandis que, dit-il, à la télé, tout ça forme un filet d'eau tiède dont ne ressort finalement que la musique tous pourrie. Alors, je ne sais pas ce que cette argumentation vous inspire.
Ouais, d'abord, le truc que je veux dire, c'est que le sujet de France 2 est remarquablement bien fait parce que, Il fait un choix. Il fait pas référence aux informations que sort Armel Toraval.
C'est avant. C'est le dimanche.
Mais il fait un choix, un seul. Il traite la police de caractère.
Celui-là, c'est le lundi. Excusez-moi.
Donc, c'est ce que disait. Ouais. Donc, il traite la police de caractère. Il fait une ligne, une seule. C'est ça aussi la télé. Il y a un moment, enfin, nous, au vrai journal, on a fait un peu d'investigation autant qu'on a pu. Et on était sans arrêt confrontés, effectivement, au caractère extrêmement touffu. On a fait deux sujets sur l'AMNEF. C'est vrai que si on regarde pas attentivement, il faut arrêter de mâcher, quoi. C'est à l'heure du déjeuner, il faut que les gens arrêtent de manger, ils arrêtent de mâcher, ils se concentrent. C'est vrai qu'il y a ce problème-là. On est sans arrêt confronté à ça. Être super pédago, à répéter trois fois les infos pour avoir une chance qu'elles passent, c'est recevable.
Maintenant, vous entendez TF1 dire que la télé n'est pas un outil adapté à l'investigation.
C'est n'importe quoi. Parce qu'on peut le faire. C'est juste un peu plus dur, mais on peut le faire. Il faut prendre le risque de perdre quelques téléspectateurs et il faut avoir le courage politique.
Quel est votre sentiment à vous qui appartenez à une rédaction d'un grand hebdomadaire?
Je pense que Si la télévision ne peut jamais sortir aucune information originale, il faut se dire que ça n'est pas un média, ça n'est plus qu'une sorte d'instrument à répéter ce qui se fait ailleurs. Ce qui est vrai, c'est que la télévision n'a pas les moyens de faire un récit circonstancié. ça c'est vrai, ou c'est exceptionnel, ça ne peut se faire que dans des émissions spécialisées et pas dans le journal de 20 heures. C'est vrai aussi, il faut le reconnaître.
Il suffit de sortir du journal de 20 heures, parce qu'il y a quand même des émissions qui sont des émissions d'enquête, il y a Envoyé spécial, et moi je me souviens d'avoir découvert la question de l'amiante, il y a une dizaine d'années, dans une émission d'Envoyé spécial, où d'ailleurs on apprenait même que c'était une maladie environnementale, puisque la personne atteinte, elle l'était parce qu'elle habitait près d'une usine d'amiante. Et alors que Claude Allègre, qui est ministre, continue à nier le caractère environnemental de cette maladie.
Et quelle est votre appréciation personnelle sur la prudence de TF1 sur cette affaire
Peut-être avez-vous raison, peut-être que la présence d'Anne Sinclair les gêne. Cela étant, je reste convaincu que c'est très difficile au journal télévisé de donner des informations suffisamment précises. Alors peut-être aurait-il pu, en effet, être, disons,
ponctuel.
Plus ponctuel. Si vous voulez comme l'a été Antenne 2, mais entrer dans le détail, ça ils ne peuvent pas le faire, et ça je crois qu'on doit l'attendre d'autres types d'émissions que du journal.
D'accord.
Mais elles existent.
Moi curieusement, et là peut-être à contrepoint, c'est vrai que France 2 reprend assez largement
votre enquête.
Oui, mais dans le commentaire il y a une reprise qui n'est pas dans mon papier, avec des éléments qui ne sont pas dans mon papier. Il y a des faits précis que je n'ai pas écrits, en tous les cas. Donc
peut-être qu'ils ont peut-être enquêté d'eux-mêmes aussi.
Peut-être, mais... c'est possible, effectivement, mais qui me paraissent, par ailleurs, par rapport... qui peuvent se discuter.
Ah, qui peuvent se discuter. Voilà. Ah, oui, bon.
Et j'aurais tendance, en l'occurrence, c'est pas vrai, au cours de l'affaire de la MNEF, très nettement, à une période, manifestement, la télévision n'avait pas envie d'en parler, du tout.
Ça s'emballe et tout le monde est obligé de...
Je suis pas sûr de cette interprétation pour TF1, en tout cas.
Alors, on va revenir sur cette période où la télévision n'avait pas envie d'en parler, parce qu'effectivement, c'est particulièrement frappant. Hein. Dans les 18 mois que durent les investigations journalistiques dans la presse écrite sur la MNEF, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, les journaux y reviennent avec opiniâtreté et n'hésitent pas, eux, à citer plusieurs fois nommément le nom de Strauss-Kahn. On a fait un petit recensement, Valérie.
Oui, alors, on a fait un petit recensement en commençant par une date, le 7 avril 1998, c'est la date de votre premier papier dans Libération, où vous révélez pour la première fois une enquête approfondie sur le fonctionnement de la MNEF et ses multiples filiales. C'est un article que vous écrivez, il faut le préciser, à ce moment-là, avant l'ouverture de toute information judiciaire sur la base de votre enquête. Et vous continuez cette enquête, effectivement, avec un papier que vous avez cité tout à l'heure, le 9 juillet 1998, c'est au lendemain de la demi-finale de la Coupe du Monde de football, ça s'y prête pas vraiment, mais c'est là que vous nommez pour la première fois, au cœur d'un papier, vous l'avez signalé, le nom de Dominique Strauss-Kahn, son rôle et la rémunération qu'il aurait touché en tant qu'avocat de la MNEF. Mais à ce moment-là, vous ne faites pas particulièrement allusion à des irrégularités. Vous racontez l'histoire, c'est un petit peu compliqué. Quelques jours plus tard, Le Monde, d'ailleurs, le 28 juillet 1998, reprend votre information et cite à son tour Dominique Strauss-Kahn, parle de son intervention comme avocat d'affaires. Et c'est Le Parisien qui continue un petit peu l'enquête, qui prend le relais le 21 août 1998. Oui. C'est une période assez riche quand même à ce moment-là, et qui annonce avant tout le monde l'ouverture prochaine d'une information judiciaire sur la MNEF, plusieurs jours avant que cette information judiciaire soit effectivement ouverte, puisqu'elle a été ouverte le 8 septembre 1998. Donc une fois encore, on constate que pendant toute cette période, les journalistes sont vraiment en avance sur la justice. C'est vraiment une période où les journalistes enquêtent. Alors Le Parisien, toujours, un peu plus tard, en septembre 1998, donne la parole à Jean-Louis Debré, qui se demande, lui, si Dominique Strauss-Kahn a vraiment travaillé pour la filiale de la MNEF. Alors ça revient de façon récurrente. Et dans Libération, donc vous l'avez cité tout à l'heure, ce papier du 9 décembre 1998, c'est à la une, et vous dites en une que Dominique Strauss-Kahn donc a perçu 600 000 francs sans rédiger un seul document. C'est une phrase assez inquiétante. Vous expliquez effectivement les choses très très précisément dans le papier ensuite. 6 mois plus tard, on est en juillet 1999. Alors il faut préciser que la seconde information judiciaire a à ce moment-là déjà été ouverte. Votre enquête au long cours, puisque là, vraiment, ça a duré déjà presque un an, rebondit. Et en fait, là, vous révélez le contenu de 3 enquêtes administratives. Et de nouveau, vous citez Dominique Strauss-Kahn, mais également d'autres personnes que vous avez déjà précédemment citées, Jean-Christophe Cambadélis, François Bernardini, Jean-Marie Le Guen, qui sont tous les trois des dirigeants du Parti Socialiste. Le Parisien continue l'investigation et le 23 juillet 1999, quelques jours plus tard, nous annonce que Dominique Strauss-Kahn pourrait être entendu par des juges. Effectivement, Le Parisien révèle qu'il y a eu des perquisitions qui ont été menées chez l'un des avocats de la MNEF pour trouver les documents qui justifieraient de la prestation de Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Le 10 septembre 1999, enfin, Le Parisien insiste et sort les noms de ceux qui auraient travaillé en emploi fictif pour la MNEF. Ce sont des noms cités de sources policières. Il y en a plusieurs, Jean-Marie Le Guen toujours et Marie-France Lavarini, qui est une proche de Lionel Jospin.
Alors, ce qu'on voit là, c'est que depuis juillet 98, donc depuis plus d'un an, bien plus d'un an, la presse écrite mitraille Strauss-Kahn. Alors, on a cherché à savoir, nous, par curiosité, quelle était la première fois où, sur chacune des trois principales chaînes de télévision, le nom apparaissait, simplement. Alors, la chaîne où le nom apparaît le premier, Valérie ?
Le gagnant, c'est France 2. Le gagnant, c'est France 2 qui parle de Dominique Strauss-Kahn pour la première fois le 9 septembre 1998, deux mois après que vous l'ayez cité dans votre journal. Et en fait, c'est à propos du premier volet de l'affaire de la MNEF qui concerne entre autres une filiale qui s'appelle Policité. À cette date, une information judiciaire vient d'être ouverte pour trois filiales de la MNEF, dont celle-ci. Et donc, on les soupçonne d'avoir éventuellement financé des campagnes électorales de certains partis. Et donc, on va écouter ce qui se passe sur France 2.
Policité, une entreprise bien connue de certains responsables socialistes, elle s'est entre autres occupée de la campagne pour les municipales de Dominique Strauss-Kahn, c'était en 1995.
Monsieur Strauss-Kahn, vous vous sentez concerné puisque votre nom a été cité?
Moi j'ai effectivement utilisé les services de cette agence de publicité, je ne peux pas en dire plus. Maintenant, est-ce qu'ils avaient le monopole ou pas des actions de communication de la MNEF, je n'en sais rien. Pour moi, ils ont fait un bon travail.
Et il y a d'autres noms de dirigeants socialistes qui sont cités? Vous êtes au courant? Tout le monde...
On lit la presse, on voit qu'il y a un sujet. Je pense que s'il y a des questions que la justice doit traiter, elle les traitera.
Donc on apprend que Dominique Strauss-Kahn lit la presse, ce qui est quand même une information intéressante. Quels sont les téléspectateurs qui ont le droit, en second, d'être informés de la présence du ministre de l'Affaires?
Alors, c'est ceux qui regarderont France 3. France 3, mais là, il va falloir qu'ils attendent quand même un petit peu à France 3. Il faut qu'ils attendent, en fait, le mois de janvier 1999. Donc, si on prend votre article comme référence, ça fait 6 mois après vous. C'est, en fait, un petit peu après l'ouverture de la seconde information judiciaire. Et là, France 3 cite pour la première fois Dominique Strauss-Kahn.
De l'argent aurait-il été détourné au profit de certains ténors du Parti Socialiste? C'est la question que se posent les enquêteurs, qui s'interrogent notamment sur des salaires versés par la MNEF au député socialiste Jean-Marie Le Guen, ou sur des honoraires réglés à Dominique Strauss-Kahn lorsqu'il était avocat.
Quant à TF1?
Alors là, TF1, c'est dramatique. TF1, alors eux, ils lisent pas la presse, c'est pas comme Dominique Strauss-Kahn, c'est clair, ils lisent pas la presse. Ils attendent, mais la dernière minute, c'est vraiment là au moment où ils peuvent plus du tout rien faire, c'est le 29 octobre 99. Alors là, on compte même plus quand est-ce que votre article a été publié, tellement c'est loin. Et en fait, c'est une date, effectivement, qu'on connaît maintenant tous. C'est entre autres la date où il y a eu ce fameux réquisitoire supplétif du parquet pour faux et usage de faux à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn. C'est Jean-Pierre Pernaut qui s'y colle. Et voilà, il va avoir un petit peu de mal à le dire quand même.
Première nuit de prison pour l'ancien directeur général de la Mutuelle Nationale des Étudiants de France, la MNEF. On parle de détournement de fonds, vous le savez, d'emploi fictif et de financement occulte de partis politiques. Le patron de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône est d'ailleurs toujours en garde à vue. Dans la presse également, un ancien cadre de la MNEF met en cause Dominique Strauss-Kahn dans cette affaire, le ministre qui dément.
Il prend son élan.
C'est dur. Hein.
Alors, on a quand même moins bien été informé là-dessus que sur l'amiante, par exemple, si on regarde la télévision.
Alors, c'est possible, encore que sur l'amiante, vous savez.
Vous vous en félicitez ou vous le regrettez?
Non, je ne m'en félicite pas, je le regrette plus ou moins. Les téléspectateurs sont aussi des lecteurs de la presse, donc je crois que l'information a considérablement circulé. Je crois qu'aujourd'hui, nul ne peut dire que les enquêtes visant les hommes politiques sont difficiles, enfin elles sont difficiles à mener pour ceux qui les mènent, ça j'en ai bien conscience, mais nul ne peut dire qu'elles sont censurées. Je crois même qu'il y a un problème aujourd'hui d'ordre très général. La démocratie dont on parlait tout à l'heure, elle est fondée sur l'idée que il y a une vérité de l'apparence. Et que cette vérité publique, elle est intéressante. C'est ce que disent les gens est intéressant. Or, de plus en plus, on a la conviction aujourd'hui que la vérité est cachée. C'est-à-dire quand on aura déchiré le rideau qu'on trouvera la vérité. La vérité, elle est toujours derrière les apparences. Et je pense que ce n'est pas vrai. C'est vrai partiellement, mais je crois que les gens sont convaincus que c'est vrai totalement et qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, c'est une vérité cachée et plus intéressante pour les journalistes et pour les lecteurs de journaux qu'une vérité apparaît.
Alain Finkielkraut, la non-prononciation du nom de Strauss-Kahn avant la semaine dernière.
Oui, mais c'est ridicule. C'est ridicule.
C'est pas une manière de cacher une partie de la vérité.
Oui, mais enfin,
si vous voulez. Qui peut nourrir le soupçon.
Bien entendu, mais si TF1 était la seule chaîne de télévision d'un État totalitaire gouverné par Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, on pourrait s'inquiéter. Mais ça, on ne peut que se marrer. C'est complètement ridicule. Tout le monde le sait. Ils sont obligés de le dire, une fois même que leurs téléspectateurs le savent avant eux.
Voilà, Jean-Julien.
C'est pas la question. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Alain Finkielkraut, parce que c'est au fond la question du journalisme d'investigation.
En quelque sorte.
Tout journalisme est journalisme d'investigation, tout historien. D'ailleurs, je crois que le mot grec qui veut dire histoire signifie enquête. Hein, donc, bon. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux écueils, ou plutôt il y a deux positions. Celle qui consiste à dire les dessous de l'histoire ou les dessous de la politique ne sont pas intéressants. Ils sont nauséabonds et du reste, ils sont anecdotiques. Ils ne prouvent rien ni dans un sens ni dans un autre. Et donc, on gomme ça complètement. L'autre, et c'est ce qu'on a fait très longtemps à l'égard, je le rappelais tout à l'heure, à propos des élites. Inversement, il y aurait une tendance, et je ne mets absolument pas en cause les journalistes qui font ça, bien au contraire, mais qui consisterait à ramener toute la politique, je dirais, à son étage clandestin. Je prends un exemple.
Les dessous policiers, les dessous financiers.
Voilà. À un moment donné, j'ai travaillé sur la CGT au début du siècle, et j'ai découvert, après d'autres, d'ailleurs je n'étais pas le seul, mais que Clémenceau avait utilisé des agents provocateurs au sein de la CGT, y compris dans des affaires qui sont traduites par des morts.
C'était un scoop, ça ?
Comment ?
C'était un scoop ?
Ah non, mon livre date d'une trentaine d'années.
Ah,
donc, oui. Ah oui, à l'époque, oui, c'était un peu un scoop. Est-ce que ça veut dire qu'on va réduire, mettons, l'affrontement entre la CGT et le gouvernement de l'époque à une affaire policière? Bien sûr que non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir une fascination. Et c'est ça qu'Alain dénonçait, à mon avis, justement. La fascination que ce qui est caché est plus important que ce qui est public. En réalité, moi je crois que le journalisme, c'est quelque chose de composite. Et que
c'est l'ensemble.
Oui,
c'est l'ensemble. Paul Morera,
je vais juste dire un truc rapidement. Ce qui est mieux caché, c'est ce qui se voit. Et en fait, en réalité, en politique, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la manière dont on tourne les choses. Vous voyez, on parle des gens de génération MNEF, par exemple. Il y a des gens qui disent, voilà, c'est une génération de gens qui sont arrivés au PS à la même époque, etc. Si on appelle ça réseau, et si on s'aperçoit qu'ils bossaient ensemble et qu'ils s'échangeaient des boulots, etc., c'est plus la même chose. C'est la même réalité, sauf que c'est comme les spin doctors. Ils vous tournent la chose de manière à ce que ça soit...
L'angle de vision est différent.
Oui, je propose des sujets d'enquête. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Jacques Julliard, mais...
Valérie Cazeneuve, vous écoutez.
Non, mais alors, des sujets d'enquête... N'exagérons rien. Mais justement, pour complètement dissiper ce soupçon que de mauvais esprits peuvent avoir, alors, d'une alliance entre les juges et les journalistes, chacun ayant besoin de l'autre pour un certain nombre d'informations. Des enquêtes sur les juges. Enquête, par exemple, sur la détention préventive comme machine à extorquer des aveux quand elle est utilisée par Eva Joly. Enquête sur le calvaire subi par le floc Prigent. Était-il mérité? Que lui est-il arrivé? Quand on pense en plus qu'il a été quand même balancé par l'excellent Philippe Jaffré.
Vous avez le sentiment qu'elles ne sont pas faites, ces enquêtes?
Non. Enquête sur le rôle de la délation aujourd'hui dans l'ouverture, justement, des enquêtes judiciaires. Enquête sur ce qui se passe aujourd'hui à propos du sang contaminé. Garita va être jugé pour une deuxième fois pour le même crime. Au nom d'un principe absurde, c'est-à-dire au nom d'un précédent absurde que je résume en un mot, Madame Berthelat-Geoffroy a cité l'affaire de la grenade. Une grenade a détruit un mur, a détruit un immeuble et elle a fait des blessés. Et elle a dit, il y a eu donc deux chefs d'inculpation. Mais deux chefs d'inculpation pour deux faits différents. Là, il y a eu deux chefs d'inculpation, si vous voulez, marchandises, délit d'épicier et empoisonnement, pour le même fait. C'est une aberration. Cette aberration, elle a été dénoncée par personne. Le jour où on fera autant d'enquêtes sur la manière de procéder à la justice qu'on en fait sur les politiques, je dirais vive les enquêtes.
Vous savez, dans Libération, par exemple, il y a régulièrement sur des enquêtes approfondies, que je ne fais pas, mais que fait une de mes consoeurs, sur les prisons, sur la détention préventive. Mais c'est vrai que nous passons plus de temps à nous consacrer aux détenus provisoires ordinaires dont personne ne parle qu'à la détention ou aux conditions de détention de M. Le Foc-Prigent. Moi, je vais juste vous raconter
Je voudrais vous poser une question. Oui. Si vous découvriez un jour des choses désagréables sur les juges qui instruisent les affaires de l'AMNEF, des manquements aux devoirs professionnels, des fautes, etc., est-ce que vous pensez que vous auriez toute liberté de les écrire, au risque de vous priver peut-être d'une source importante?
Mais attendez, très, très régulièrement, on écrit des choses extrêmement désagréables pour les magistrats. Très régulièrement.
Mais vous, dans le fond,
nous, enfin moi, à titre personnel, mais franchement, l'équipe dans laquelle je travaille, très régulièrement, on écrit des choses assez désagréables. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément des relations tout à fait cordiales avec un certain nombre de gens.
Pour vous, les juges ne sont pas les puissants d'aujourd'hui que dénonce Michael Croce, les puissants, les nouveaux intouchables.
Non, mais attendez, les juges sont comme les autres, c'est-à-dire ils sont comme les journalistes, comme les philosophes, comme les avocats. Il y a des gens qui font bien leur métier et des gens qui le font moins bien. Et par définition, ils appliquent la loi. Et la seule différence, et ce qui se passe actuellement, et qui est une espèce de découverte visiblement impossible à assimiler, c'est qu'ils appliquent la loi de façon relativement égale pour tous. Ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. N'était pas du tout le cas.
Alors, je voudrais, on a encore deux images sur lesquelles je souhaitais qu'on s'arrête. On a un peu écourté le débat sur l'investigation télévisée. Ce qui veut dire, c'est qu'au Vrai Journal, à l'époque où vous étiez rédacteur en chef, vous avez consacré deux longues enquêtes aux affaires de l'AMNEF et de Dominique Strauss-Kahn, et que vous avez été un des premiers à interroger Dominique Strauss-Kahn. C'est passé en septembre 1998. Je voudrais qu'on regarde.
Vos affiches, par exemple, de votre campagne sont faites par une société amie de l'AMNEF. On a l'impression que vous êtes dans... Est-ce que vous êtes copain?
Les affiches de ma campagne électorale municipale de 1995 ont été faites par moi. Une agence de publicité a travaillé pour moi pour une somme qui est indiquée dans mon compte de campagne.
Ouais.
Il se trouve que cette agence de publicité travaille aussi pour l'AMNEF. Et si elle a des relations particulières avec l'AMNEF, la justice se dira, ça ne me concerne en rien.
Mais c'est des copains, ce sont des copains ou pas?
Est-ce que pour vous, là-dedans, on apprend quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'on y apprend?
C'est une mise en scène de ce qu'on sait. C'est-à-dire, on sait, vous avez montré un extrait du sujet, les quelques phrases de commentaires avant donnent le chèque de 603 000 francs, donc, nous, on demande une interview, y compris, on a un espèce de feedback dans l'entourage de Strauss-Kahn, comme quoi il aimerait bien s'exprimer, ça serait bien qu'ait son avis, etc. Évidemment, ça ne se concrétise pas, peut-être dû à la nature de l'émission, enfin bon.
Donc vous allez le piéger en quelque sorte,
comme à chaque fois, comme on va avec Tibéri à sa conférence de presse mensuelle, etc. Et donc on lui pose la question et on essaie d'avoir une réponse. On lui aurait posé la question du chèque s'il était resté un peu plus longtemps. C'est vrai que nous, enfin, l'investigation télévisée, on est extrêmement modeste parce qu'on arrive à sortir très très peu de choses. Je veux dire, sur deux ans, de trucs vraiment exclusifs, on a dû sortir quatre ou cinq choses. Le gros du boulot est fait par les gens de la presse écrite qui peuvent utiliser le off, peuvent utiliser toutes ces choses-là. Et donc, on se retrouve finalement à mettre en scène nos difficultés à enquêter.
J'ai juste une question. Alors, est-ce que, par exemple, le fait de garder au montage les derniers mots de votre journaliste quand il demande à Strauss-Kahn déjà remonté dans sa voiture, alors c'est des copains. C'est quoi ça?
Ça met en scène, effectivement, l'opinion que s'est faite le journaliste au bout d'une semaine et demie d'enquête sur le sujet, avec tout ce qu'il a lu, avec les gens qu'il a rencontrés. Moi, je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas.
Vous ne pensez pas que ce type de petite image, là, ça dure 3 secondes, c'est des copains, vous ne pensez pas que c'est de nature précisément peut-être. À entretenir le soupçon, tous pourris, tous copains.
Peut-être, mais c'était aussi la question qu'il fallait lui poser, et c'est la question qui ne lui a pas été... je constate, en tout cas, je ne sais pas si vous n'avez pas tout gardé, mais la question sur le chèque de 603 000 francs, qui est la question qu'on avait envie d'entendre poser, je n'ai pas entendu Claude Sirion la poser à Strauss-Kahn quand il l'a invité un mois auparavant.
Il ne l'a pas posée, il l'a interrogé sur un autre aspect de l'affaire.
Voilà, donc c'est vrai que soit on pose des questions, soit on ne les pose pas. Alors après, ça fait un peu... Ouais, c'est vrai, ça fait un peu micro en embuscade, mais bon, on l'assume.
Ce qui me gêne là-dedans. Et c'est pas du tout vous que je mets en cause, mais c'est que ça fait harcèlement. Autrement dit, est-ce que vous ne cherchez pas, au fond, par des moyens qui sont brutaux, soudains, d'obtenir un effet de mise en scène, alors qu'il faut vraiment faire une enquête?
Attendez, l'enquête, on l'a fait.
Oui, on a gardé qu'un très court extrait, là.
Vous voyez 5 secondes du sujet. Il y a tout un sujet. Il y a le fameux Guy Dauvert, là, qui s'est mis à dont la femme...
Voilà, vous n'avez pas le résumé, ce serait trop long.
Enfin, vous épargnez ça.
D'accord, on l'a fait. J'ai pas vu votre sujet en entier. Non, mais c'est un dirige de la télé.
La question, c'est de se demander si ça nous choque de voir ce harcèlement, enfin, ce que vous appelez un harcèlement. Est-ce que dans la presse écrite, quand on enquête, on pourrait harceler de la même façon, alors pas un micro à la main, mais au téléphone?
Non, mais le problème, c'est que... Enfin, il y a plusieurs problèmes. Là, nous nous centrons depuis le début sur
Dominique Strauss-Kahn. Comme si l'enjeu essentiel de cette affaire était
Dominique Strauss-Kahn. C'est l'actualité de la semaine, si vous voulez.
C'est l'actualité de la semaine, mais c'est même ici, d'une certaine façon, je trouve que c'est une orientation particulière. C'est-à-dire que cette affaire de la MNEF, au départ, Dominique Strauss-Kahn en est, parce qu'il a intervenu à un moment donné, le personnage le plus éminent, le personnage qui avait le plus de pouvoir, celui qui démissionne. Alors tout le monde se focalise sur lui. Pour moi, et quand j'ai enquêté sur cette affaire, la question de la MNEF n'est pas une question qui se rapporte seulement à Dominique Strauss-Kahn. C'est la question d'une mutuelle, de la première mutuelle étudiante. Alors évidemment, c'est moins sexy, ça fait moins vendre. C'est une question qui est fondamentale. C'est la gestion de la santé des étudiants. Et c'est la question d'une image publique très forte, avec des hommes de gauche et des hommes politiques qui étaient très proches de cette mutuelle, qui se vendait sur « on est meilleur pour la santé, on s'engage contre le racisme, on s'engage sur un certain nombre de débats politiques ». Et en regardant de près, on s'aperçoit que c'est faux pour une partie et que c'est vrai pour une autre partie. Bon. Donc, à un moment donné, la façon dont les choses peuvent être tordues, c'est un petit peu tout le temps. Quoi. Donc,
très bien. Mais écoutez, merci. On touche à la fin de cette émission où finalement on aura beaucoup parlé des rapports entre le politique, le judiciaire et aussi les médias, qui était notre angle particulier à nous. Pendant toute cette émission, Colomb Schneck nous a regardé à la télé, comme vous nous regardez, et elle va maintenant décortiquer le spectacle de télévision que nous sommes aussi.
Vous savez, j'ai un souci parce que il y a une règle non écrite, arrêt sur image, c'est qu'on ne dit pas du bien de la télé. Si on aime bien, on ne le dit pas, quoi. Et moi, j'ai trouvé l'émission vraiment passionnante. Donc, c'est vrai.
J'irai.
Et en particulier, j'ai trouvé votre l'enquête de Valérie et de vous sur la différence de traitement entre TF1 et France 2 sur l'affaire donc Strauss-Kahn, même si ce n'est pas le personnage emblématique de l'affaire, passionnante. Donc, on va en voir un extrait, surtout à cette conclusion.
Alors, évidemment, la première explication qui vient à l'esprit de cette prudence de TF1, c'est de se dire que TF1 est très embarrassé dans cette affaire par le fait que l'épouse de Dominique Strauss-Kahn soit Anne Sinclair, ancienne journaliste vedette de la chaîne et toujours dirigeante de la chaîne. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Robert Namias, directeur de l'information, je lui ai demandé naïvement si c'était la raison de la réserve de TF1. Il m'a assuré que non, que une consigne particulière de modération n'avait été donnée à TF1 sur l'affaire de la MNEF, pas plus que sur aucune autre.
Oui, donc la démonstration, l'enquête, le coup de fil, tout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, je me suis posé une question, enfin, j'aimerais vous poser une question à vous, Daniel.
Est-ce que j'ai réussi à faire le numéro tout seul?
Non, c'est pas ça. C'est que souvent, on a remarqué à Arrêt sur Image que c'est très difficile pour une chaîne de télévision de parler des gens qui les concernent. Mais vous, ici, Arrêt sur Image, imaginons qu'une chose désagréable arrive au journal Le Monde, pour lequel vous collaborez, ou à la cinquième chaîne. Comment vous allez faire?
Attendons.
Est-ce que vous avez reçu, par exemple, un coup de fil de Jean de Clément vous disant qu'il est donc le patron de la 5e Arte? Attention, s'il m'arrive un truc, vous n'avez pas le droit d'en parler.
Colombe, jamais. Mais l'avenir est ouvert.
D'accord.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rediffusion de cette émission à 10h40 jeudi et prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h30 si Jérôme Clément nous laisse en vie. Au revoir à tous.